13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS à votre santé, on s'occupe de votre forme, ce Beurre FM entre midi et 13h. Et aujourd'hui, on va s'occuper plus particulièrement de vos oreilles avec notre invité Philippe Metzger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes audioprothésiste et vous êtes secrétaire général de l'association JNA. L'association JNA qui organise des campagnes nationales d'information et notamment la journée nationale de l'audition qui œuvre depuis 19 ans en France. Et c'est donc jeudi que nous allons avoir cette 10e journée nationale de l'audition. En quoi ça consiste, les journées nationales de l'audition?
Alors, les journées
on éteint tout et on n'écoute rien du tout, c'est ça?
Ah non.
On fait la grève du son?
Non, on s'occupe de ses oreilles et on prend conscience qu'on a un système auditif et qu'il est fragile. Donc, c'est les journées, c'est un point d'orgue une fois par an, mais c'est aussi des actions tout au long de l'année, la journée nationale de l'audition, parce que finalement, on peut faire tester son audition aussi en cours de l'année.
Comment on sait alors et comment est-ce qu'on mesure l'audition?
Alors, on mesure l'audition avec ce qu'on appelle un audiogramme.
Ouais.
Un audiogramme, c'est vous le faites soit chez le médecin otorhinolaryngologiste, soit chez un audioprothésiste. Dans ce cas-là, vous ferez ce qu'on appelle un audiogramme de dépistage. On vous fera écouter les sons à différents niveaux et à différentes fréquences. Et puis, on va mesurer à partir de quel seuil vous commencez à entendre les sons, ce qu'on appelle les sons liminaires, les sons les plus faibles que vous êtes capable de percevoir.
Ça, on pourra le faire jeudi?
On pourra le faire.
Les gens pourront justement mesurer leur...
Voilà. Ils pourront vérifier. C'est intéressant même pour quelqu'un qui pense avoir une bonne audition d'aller faire mesurer son système auditif, parce que ça lui donnera une référence pour plus tard. Parce que malheureusement, le système auditif, en tout état de cause, arrive à vieillir naturellement. Et donc, c'est assez intéressant, si un jour on doit appareiller ces gens-là, d'avoir au moins une référence à un instant donné de leur état auditif.
Vous avez un site pour vous qui nous écoutez, justement, si vous voulez savoir si près de chez vous il y a quelqu'un qui participe à la journée. C'est journée-audition.org. Il y a un numéro vert également que vous pouvez appeler pour prendre un rendez-vous. L'oreille vieillit. Comme le reste.
L'oreille humaine vieillit. Ce qui n'est pas le cas de nombreux animaux, mais l'oreille humaine, malheureusement, elle a une capacité auditive à la naissance et elle ne peut que en perdre. Donc elle vieillit naturellement et en plus on peut accélérer son système de vieillissement par des traumas sonores, par exemple.
On dispose d'un capital.
Oui, exactement.
Auditif, combien on a en banque?
C'est vrai qu'on parle souvent du capital pot, finalement, au niveau soleil. Et on parle assez rarement du capital auditif, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, malheureusement, plus vous allez altérer votre système auditif, et moins il vous en restera pour le futur.
C'est-à-dire qu'en fait, on a un capital, et si on retire de l'argent, on ne pourra pas le remettre.
Exactement.
C'est ça que ça veut dire.
Exactement. On ne marche que dans un sens, malheureusement. On a à peu près 15 000 cellules sensorielles dans l'oreille interne. C'est un potentiel assez faible au regard, par exemple, des cellules visuelles ou des cellules olfactiles pour le nez ou les yeux. Et donc, on a un capital qui est très faible et qui est très fragile. Et finalement, il s'altère assez vite.
C'est-à-dire nous on fait un métier, par exemple les gens de radio ou toutes les personnes qui travaillent dans le son font des métiers qui sont assez exposés, dit-on. On est exposé à quoi? Fait de porter un casque qui nous expose.
Ouais, parce que finalement quand vous portez un casque, vous avez une intensité sonore qui est assez forte finalement au niveau des oreilles, et surtout vous avez peu de possibilités de reposer le système auditif. C'est-à-dire que normalement quand vous avez écouté une heure ou deux heures au casque, vous devriez au moins avoir le même temps de récupération dans le silence, ce qui est souvent pas le cas pour les animateurs radio qui ont en permanence. Alors les DJ sont encore plus exposés parce que eux ils sont à des niveaux d'intensité très très forts.
Mais un DJ par exemple il fait pas ça toute la journée. Si je comprends bien ce que vous dites, ça veut dire que quelqu'un qui serait exposé au bruit avec un casque sur la tête, donc est DJ, il devrait avoir le même temps de silence au moins égal.
Ouais, exactement.
Avec rien entendu du tout.
Ouais, alors pratiquement rien entendu du tout, ça n'existe pas. Aujourd'hui même dans les chambres anéchoïdes, les chambres sourdes, on arrive à descendre à 10 décibels, pas plus. Une pièce calme pour nous c'est 30 40 décibels, c'est déjà une pièce très calme. Donc déjà rester dans ce niveau d'intensité sonore, vous récupérez au niveau de vos oreilles. Il faut savoir que normalement, la législation du travail, qui est assez bien faite à ce niveau-là, autorise les ouvriers à rester au moins 8 heures à 80 décibels par jour. Et donc, normalement, si vous augmentez de 3 décibels ces temps de port, vous devriez diminuer de 50% à peu près le temps d'exposition.
Aujourd'hui, tout le monde travaille avec un casque hein, sur la tête, les standardistes dans les centres d'appel. Est-ce que ces gens-là, par exemple, aussi, sont exposés au niveau de leurs oreilles?
On a des troubles. Ouais, on a des troubles particuliers chez les gens qui sont dans les standards téléphoniques avec un casque en permanence sur les oreilles. Ils développent des pathologies spécifiques à ce genre de profession.
Et ceux qui ont des oreillettes, alors maintenant on conseille à ceux qui ont des téléphones portables de mettre des oreillettes. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour les oreilles?
C'est une bonne chose pour ce qui est des radiofréquences, parce que finalement ce qu'on craint beaucoup avec les téléphones portables trop près des oreilles, c'est plutôt les radiofréquences. Alors c'est pas nocif pour les oreilles, mais c'est nocif pour le céphalée.
Céphalée, c'est les migraines.
Exactement. Le fait d'avoir des oreillettes pour écouter son téléphone, c'est pas non plus très très bon là pour les oreilles, pour le coup.
Et les casques, parce que maintenant tout le monde a un casque aussi.
Le
casque pour écouter de la musique, en fait.
Exactement. Ouais. Donc on aimerait que les gens n'abusent pas finalement du casque et utilisent pas plus de 2-3 heures un casque. Et quand ils écoutent de la musique, le problème c'est que souvent ils augmentent l'intensité sonore pour avoir un petit peu plus de plaisir, pour avoir un peu plus de définition au niveau du son. Et là, ils prennent un risque assez important. On leur dit, essayer de limiter déjà l'exposition au bruit au travers d'un casque ou à la musique au travers d'un casque, et si possible, essayer de limiter la puissance pour que ça soit audible et confortable, mais pas plus que ça.
Mais alors, c'est-à-dire combien?
Alors, on aimerait que ça dépasse pas... Vous savez, le maximum de sensibilité de l'oreille interne, elle est entre 70 et 80 décibels. Au-delà, vous saturez votre système de perception, et donc vous allez surtout avoir une impression de rythme et plus que de qualité auditive.
Comment savoir si on entend bien sans aller chez un spécialiste? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous alerter que quelque chose n'est plus comme avant?
C'est pas évident, parce que finalement on n'a pas de référence. La plupart du temps on perd de l'audition petit à petit, décibel par décibel. Donc on s'en rend absolument pas compte. C'est l'une des problématiques de la surdité, c'est qu'elle est assez sournoise et insidieuse, parce que les gens nous disent toujours, mais moi j'entends très très bien, c'est mon entourage qui articule pas bien ou qui parle trop vite ou qui parle la main devant la bouche, et donc je comprends rien de ce qu'ils disent, mais c'est pas moi qui suis en cause, c'est les autres. Donc l'audiométrie, le test auditif, finalement, est un peu le seul test vraiment valable et vraiment efficace.
Précis. Est-ce que c'est comme les yeux, par exemple, on peut avoir une oreille préférentielle et justement compenser le manque d'audition d'une oreille par l'autre ou pas?
Oui, alors au niveau des yeux, on a ce qu'on appelle l'œil directeur. L'œil directeur, c'est pas l'œil préférentiel, c'est l'œil avec lequel vous allez regarder en priorité. Mais vous pouvez avoir une acuité visuelle identique des deux côtés. Au niveau des oreilles, on n'a pas d'oreille directrice, on n'a pas d'oreille préférentielle. On n'a pas une oreille avec laquelle on entend la parole, une oreille avec laquelle on entend la musique, par exemple, ou une oreille émotionnelle, une oreille qui va comprendre le langage articulé. Mais par contre, c'est vrai que quand on n'a qu'une seule oreille, par exemple, on a des grosses difficultés de localisation spatiale déjà, puisqu'on n'a plus de possibilité de savoir si les sons viennent de droite ou de gauche. Quand on n'a qu'une seule oreille, on n'a pas le relief sonore, c'est-à-dire qu'on n'a pas la fusion entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Donc nos deux oreilles sont importantes.
D'accord. La notion de bruit n'est pas la même pour tout le monde, puisque finalement, il y a des gens qui peuvent très bien ne pas être gênés par beaucoup de bruit, et il y a des gens qui peuvent être très agacé par un peu de bruit. Qu'est-ce qui explique la façon dont on se comporte par rapport au bruit?
Alors, c'est vrai qu'il y a deux valeurs pour le bruit. Il y a la valeur physique, finalement, qui est l'intensité, la fréquence et la durée d'exposition, qui elle est la même pour tout le monde. Et puis, il y a le facteur, disons, émotionnel ou subjectif que vous pouvez donner à certains sons. Par exemple, si vous entendez très légèrement la télévision du voisin, ça va devenir intolérable. Alors que vous allez vous endormir tranquillement devant votre poste télé qui est 10 fois plus fort.
Très très fort.
Voilà, et ça vous gênera pas du tout. Vous aurez pas de trouble, ce qu'on appelle neurovégétatif.
texte, c'est comme la goutte d'eau qui tombe là.
Ouais, c'est le supplice chinois.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Et on est assez inégaux par rapport au bruit de toute façon.
Alors on est tous, on est au niveau de la valeur physique du bruit, on n'est pas tous totalement inégaux. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont heureusement une structure auditive qui est assez bonne et qui vont supporter assez bien les sons forts. Néanmoins, si jamais ils écoutent des sons à plus de 100 décibels pendant 2 heures, ils auront quand même une atteinte au niveau de leur système auditif. Il y a des gens qui sont malheureusement plus fragiles et puis ils vont faire un accident auditif assez rapidement. Donc on n'est pas tous égaux à ce niveau-là.
Qu'est-ce qu'on appelle un accident auditif?
Un trauma sonore, c'est-à-dire c'est à partir du moment où l'oreille interne finalement est un petit peu comme un muscle, il peut claquer sur une trop forte exposition.
Claquer, ça veut dire que
elle va peut-être se détruire partiellement, et dans ce cas-là, vous pouvez peut-être retrouver un seuil auditif normal après une exposition sonore trop importante, et puis elle peut aussi tout à fait se détruire totalement, et à ce moment-là, vous récupérerez pas.
On a eu l'exemple de la chanteuse Lara Fabian, il y a 2 ans, qui a pris un coup de jus dans l'oreille. Et dans ces cas-là, ça peut menacer son oreille.
Ça détruit le système, ce qu'on appelle périphérique, c'est-à-dire l'oreille interne. Parce que finalement, si vous avez un son même de très courte durée, qui est par exemple à 120 décibels, vous pouvez détruire l'oreille pratiquement instantanément.
C'est-à-dire que si on prend un coup de son comme ça dans l'oreille, on peut voilà. Définitivement
altérer son audition, et malheureusement elle n'est pas récupérable. Et vous pouvez avoir d'autres troubles d'ailleurs que la perte d'acuité auditive. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des acouphènes, c'est-à-dire c'est des bruits qui sont qui n'existent pas mais que vous entendez très bien. Vous pouvez exactement une espèce de petit sifflement dans l'oreille qui sont la plupart du temps d'ailleurs une réponse à une agression sonore. Et puis vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle une hyperacousie, c'est un phénomène qui est encore plus embêtant. C'est des gens qui ont un seuil audiométrique normal, c'est-à-dire qu'ils entendent normalement, mais par contre ils ne supportent pas le bruit d'une petite cuillère qui compose ou simplement le fait d'éternuer est insupportable.
Et quand on devient sourd, on appelle ça une quoi, acousie?
Alors c'est une hypoacousie à partir du moment.
C'est l'hypoacousie.
C'est l'hypoacousie et la surdité naturelle qui vient avec le temps qui passe, le vieillissement naturel. On appelle ça la presbyacousie, un petit peu comme la presbytie pour les yeux.
Bien, on parle de vos oreilles à l'occasion de la 19e journée nationale de l'audition. C'est jeudi, cette semaine. On va d'ailleurs justement voir les résultats d'une enquête que vous avez demandé à l'IFOP justement sur la perception des nuisances sonores et leurs effets sur la santé.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, notez que jeudi, c'est la journée nationale de l'audition, la 19e. Nous avons Philippe Metzger qui est là pour en parler. Je rappelle que vous êtes audioprothésiste et que vous êtes le secrétaire général de l'association qui organise les JNA. Audioprothésiste, qu'est-ce que vous faites comme étude pour être audioprothésiste?
Alors, c'est un concours d'entrée. C'est des écoles, soit des facs de médecine, soit des écoles préparatoires au concours d'audioprothèse. C'est un concours qui se fait après le bac C, la plupart du temps. Et c'est des études aujourd'hui qui durent 3 ans.
Vous avez demandé un sondage, enfin une enquête à l'IFOP sur les nuisances sonores et leurs effets sur la santé. Car le bruit a de l'impact sur la santé. Quels sont les impacts du bruit sur notre santé?
Alors, il y a deux types d'impacts sur la santé. Il y a l'impact classique qui est l'agression sonore et donc le vieillissement accéléré de notre système auditif. Et puis vous avez une partie beaucoup plus subjective, on appelle ça neurovégétative, c'est-à-dire c'est l'importance que vous pouvez donner à chaque son qui est une valeur qui n'est pas toujours une valeur physique mais qui est une valeur émotionnelle.
D'accord. Donc, par exemple, quelqu'un qui vit à côté d'une voie de circulation, d'un périphérique, d'une rue très fréquentée par les voitures.
Voilà. Il a deux. Alors, Normalement, s'il ferme sa fenêtre, il aura peut-être des intensités sonores qui vont pas dépasser les 50 décibels. Donc, normalement, potentiellement, c'est pas un danger pour le système auditif lui-même. Par contre, vous pouvez très mal le vivre. Et à partir du moment où vous le vivez très mal, ça peut dérégler vos problèmes, votre pression artérielle, par exemple, qui est directement liée au système neurovégétatif. Vous pouvez avoir des problèmes d'arythmie cardiaque. Et puis surtout, vous pouvez avoir des problèmes de troubles du sommeil à cause de l'anxiété que va vous apporter ce son.
Mmh. Et là, qui c'est qui prend en charge alors ?
Qui c'est qui soigne ça ? Ouais. Disons que ça vous faut tout d'abord se référer à votre médecin traitant, hein, qui va orienter un petit peu vers les différents partenaires. Vous pouvez aussi aller voir éventuellement quelqu'un qui va vous prendre en charge d'un point de vue par exemple un psychologue ou un sophrologue qui va vous aider à relativiser ce son qui vous paraît très agressif et qui peut, dans certains cas, vous empoisonner la vie.
Quelle différence vous faites entre un bruit et un son ?
Alors, officiellement, un son, c'est quelque chose qui a un fondamental et des harmoniques. Alors qu'un bruit, c'est quelque chose de totalement erratique, qui peut avoir des différentes fréquences qui sont un peu mélangées, qui n'ont pas de logique en elles-mêmes.
Dans le résultat de votre enquête, les Français disent qu'ils sont, enfin en tout cas qu'ils ressentent qu'ils sont plus exposés au bruit qu'avant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait qu'on vit dans une société qui est plus bruyante aujourd'hui ?
Oui, c'est très certainement malheureusement la vie citadine, parce que finalement la grande partie de la population vit dans une ville, et dans les villes on est soumis à des agressions sonores permanentes, ne serait-ce que dans les transports. Déjà vous commencez votre journée dans des transports qui sont la plupart du temps très bruyants, vous arrivez dans votre lieu de travail, alors si vous travaillez en usine, bien sûr que là vous risquez d'avoir beaucoup de bruit, mais vous pouvez aussi dans votre entreprise avoir beaucoup de bruit, parce que vous pouvez par exemple travailler en open space, ça se fait beaucoup maintenant, et souvent les gens nous disent que dans leur open space ils ont des agressions, ils ont un bruit permanent qui les empêche de se concentrer, et quand ils rentrent chez eux, malheureusement là où ils pourraient avoir des phases de repos, des phases de tranquillité, des phases de récupération, ils vont être soumis à des bruits. Je sais que par exemple les cafés qui maintenant vous avez plus l'autorisation de fumer à l'intérieur, donc vous fumez à l'extérieur, et souvent ça fait des regroupements de gens qui
sous les fenêtres,
sous les fenêtres. Alors les gens qui malheureusement ont acheté un appartement qui est juste au-dessous d'un café comme ça, ça devient très problématique pour eux.
Et d'un autre côté, on a les gamins aujourd'hui qui révisent leurs leçons, qui font leurs devoirs avec un casque sur la tête. Alors, on se demande comment est-ce qu'ils peuvent se concentrer. Et quand vous leur posez la question, ils vous disent que ça les empêche pas du tout de se concentrer. Ils se concentrent.
ils ont tort, je pense, parce que il y a deux types de musique que vous pouvez utiliser. C'est-à-dire si vous écoutez de la musique sans paroles, éventuellement vous pouvez ne pas trop charger cognitivement votre système mnésique. Par contre, si vous écoutez de la musique avec de la parole, vous baissez de 50% à peu près votre capacité de concentration.
Donc, non, vous ne pouvez pas vous concentrer que sur les oreilles.
L'idéal, c'est pour les étudiants, c'est de rester plutôt dans le silence et de se concentrer totalement sur leur devoir. Si jamais ils veulent écouter de la musique parce qu'ils ont l'impression que ça les occupe un peu, qu'ils écoutent de la musique mais sans parole.
Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'avaient pas de Walkman, n'avaient pas de casque, n'avaient pas de télévision, n'avaient même pas la radio, et pourtant ils étaient sourds comme des vieux pots. Pourquoi est-ce qu'ils étaient sourds ? Qu'est-ce qui les rendait sourds ?
Alors, il y avait déjà le monde du travail, parce que, vous savez, les chaudronniers, par exemple, on les cite souvent en exemple, mais les anciens travailleurs ne portaient aucune protection. Et considérait que porter une protection, c'était vraiment quelque chose de... On n'était pas vraiment un homme si on portait une protection. Donc, ils tapaient sur de la tôle, ils rifetaient sur du métal. Et donc, ils avaient des sons qui étaient terriblement forts et qui les rendaient vraiment sourds comme des pots. Et c'est vrai, à partir de 60 ans.
C'était pas les casques, en fait, à l'époque.
Alors, il y avait aucune protection du travail. Il y avait les normes de protection au travail n'existaient pas. Et c'était même assez mal vu de porter une protection.
01 53 48 3000. Dina est avec nous au téléphone. Bienvenue, Dina.
Bonjour. En fait, c'est Tina. C'est Philippe. Bonjour.
Bonjour, Tina.
Une auditrice.
Comment ça va, Tina?
Ça va. J'aime beaucoup vos émissions parce que, bon, j'ai la chance de vous écouter le matin, parce que comme je travaille en fin de journée. Ben, j'ai une question parce que je me reconnais vraiment dans ce qu'a dit le docteur. Hein. Je fais un petit coucou, voilà. Moi, j'ai effectivement, je me suis retrouvée avec les acouphènes. Je sais pas c'est dû à quoi, mais ce que je peux vous dire, j'habite tout à fait près de la rame du RER. C'est-à-dire que je suis exposée vraiment au bruit au quotidien, tous les jours et nuits. Bon, la nuit, c'est par rapport à des travaux une fois par mois, sur les rames. Est-ce que ça a une influence sur l'audition? Parce qu'en fait, j'ai une perte d'audition à la base. Et j'ai parfois ces petits acouphènes et l'ORL m'a dit qu'il ne sait pas d'où ça vient. C'est par moments, j'ai un bruit dans l'oreille qui arrive comme ça spontanément. Et je voulais savoir pourquoi j'ai ce bruit-là qui arrive comme ça spontanément dans l'oreille, ce petit acouphène. L'ORL, ils ne savent pas d'où ça vient. Et ce que je peux vous dire, j'ai un problème dentaire. Est-ce que ça joue? Est-ce que c'est un problème dentaire avec la dent? Ou aucun rapport? Ou c'est le fait que je suis exposée au bruit? Ou je ne sais pas. Enfin, j'ai une perte d'audition anormale, ce qu'ils m'ont dit. Hein. Je me suis posé la question, est-ce que c'est juste pour aller voir un audioprothésiste? Parce que comme il travaille avec des audios, avec des personnes pour nous envoyer là-bas, je me suis posé moi-même la question. Ou si c'est la machine qui a une erreur?
Alors,
il y a beaucoup de questions là. Je pense que si l'ORL déjà vous a conseillé éventuellement de porter une aide auditive, c'est que vraiment vous avez une altération de votre audition qui est importante. Je pense pas qu'il vous aurait prescrit un appareil sinon. Est-ce que c'est l'environnement sonore qui a provoqué cette perte d'acuité auditive? Je pense pas. C'est-à-dire que le bruit du métro autour de vous,
oui,
par exemple.
C'est pas ça.
Je pense pas, parce que le métro est peut-être gênant, il peut être
Pas le métro, RER. Hein.
RER, ouais.
En fait, j'ai un champ magnétique juste à ma fenêtre, devant moi, devant ma fenêtre de cuisine, j'ai vraiment un gros champ magnétique. C'est-à-dire que j'ai deux gros poteaux électriques, j'ouvre ma fenêtre, je suis exposée, mais j'ai un double vitrage, voilà.
Quand vous fermez les fenêtres avec le double vitrage, vous entendez légèrement le RER qui passe?
Légèrement, pour tout vous dire, j'entends vraiment le RER et à chaque fois j'ai les ampoules qui se cassent ou chaque fois ça tremble dans la maison, quoi. Voilà, c'est ce que je peux vous dire.
Ouais,
mais j'entends beaucoup moins effectivement avec la
fenêtre fermée.
Voilà.
Je pense qu'il y a, vous avez pas eu de trauma sonore, vous avez jamais été vraiment en discothèque ou en...
La seule chose que j'ai eu un traumatisme crânien, j'ai eu un accident, j'ai eu le coup du lapin, ça je sais, j'ai perdu la mémoire.
Ça peut avoir une influence sur l'acouphène, ça.
Le coup du lapin?
Oui, ça peut éventuellement.
Est-ce que vous parliez aussi, encore, je ne vais pas encore vous poser des questions, mais c'est marrant parce que je me reconnais dans tout. Vous parlez de concentration, mais moi j'ai un problème de concentration, d'attention avec l'audition. Est-ce que c'est lié?
Alors, c'est pas directement lié, mais c'est vrai que dans le bruit, on ne peut pas se concentrer, puisque à partir du moment où vous avez une partie de votre cerveau qui écoute, elle n'est pas disponible à autre chose.
D'accord. Donc l'audition, pour vous, c'est plus dû à l'accident.
Oui, je pense que c'est soit une fragilité naturelle de votre système auditif, qui malheureusement a vieilli plus vite que les autres. C'est peut-être une succession de micro-traumatismes sonores que vous avez pu prendre dans le cours de votre vie. Une fragilité naturelle de votre audition. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des autotoxiques, c'est-à-dire c'est des médicaments qu'on vous prescrit pour des raisons valables.
Hein, oui.
Mais qui peuvent avoir aussi une incidence sur votre future audition.
Oui. J'ai été hospitalisée 10 jours. On m'a mis justement sous un traitement, une perfusion pendant 10 jours. On m'a complètement endormie parce que j'étais semi-comateuse un petit peu, voilà, mais il y a très longtemps. Voilà.
Alors, je ne sais pas quel produit on vous a donné, mais il y a certains produits dont on sait qui peuvent altérer l'audition.
D'accord. Eh ben voilà. Donc, il faut vraiment mettre cet appareil parce que franchement, j'entends bien.
Je pense que, c'est à consulter un audioprothésiste autour de vous et voyez si c'est vraiment nécessaire. Si une nécessité, il faut le faire, mais bon, voilà.
Voilà ce qu'on pouvait dire, Tina. On fait un gros bisou. Merci de nous avoir appelés. On prendra d'autres appels au 01 53 48 3000. Alors, on a Fouzia qui nous appelle de Marseille. Fouzia, est-ce que vous m'entendez? Puisqu'on parle d'audition aujourd'hui. Fouzia?
Oui, bonjour.
Voilà, on vous entend, on vous écoute, Fouzia.
Super. Ma question, moi, c'est que j'entends très bien. Mm-hmm. J'ai pas de problème. Mais lorsque on me chuchote et qu'on doit me parler doucement, je comprends rien. Je fais répéter 100 fois, mais je ne comprends absolument rien. Pourtant, je suis allée me faire examiner les dents, les oreilles. On m'a dit que j'avais pas de problème d'audition. Mais lorsqu'on me parle doucement, je ne comprends rien. Je préfère qu'on me parle à haute voix. Là, j'entends très bien, mais chuchoter, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi j'ai du mal à capter le parler doucement. Mais très doucement, hein. Voilà.
Alors,
bah, disons que si, a priori, vous avez donc consulté un médecin otorhinolaryngologue,
ouais,
ORL, hein, qui vous a fait, je pense, un audiogramme.
Ah,
et
oui.
Et l'audiogramme était normal.
Oui, mais c'était normal.
Il n'avait pas la
fille. C'était normal.
Bon.
Mais lorsqu'on parle doucement, bon, déjà, moi je parle fort, mais je ne suis pas sourde.
Mais vous savez que c'est une expression qu'on emploie souvent, mais arrête de parler fort, je ne suis pas sourde.
Voilà.
Mais, est-ce que les gens qui parlent fort ont des problèmes d'audition, Philippe Mesguer?
Ils peuvent avoir ces problèmes d'audition parce que normalement, on a ce qu'on appelle la boucle audiophonatoire, hein, qui fait qu'on contrôle notre niveau de voix par rapport à ce qu'on entend. Si vous bouchez les oreilles, vous allez vous mettre à parler très très fort. Donc, mais ce n'est pas forcé, c'est-à-dire qu'il y a des gens
qui... Il n'y a pas forcément de lien.
Non, il n'y a pas forcément de lien, mais c'est vrai qu'il y a une causalité possible.
Mais moi c'est le parler doucement, j'ai du mal. Des fois on me parle au téléphone, bon, j'appelle une cousine qui ne peut pas trop parler, elle est là, mais je n'entends plus rien. C'est de la folie et ça me fait peur. Je me dis peut-être que c'est une... on me prévient de dans quelques années, je vais être sourde.
C'est possible, hein, mais je souhaite pas, du moins. Et je pense que ça n'a pas de rapport.
Hein. Vous faites très bien votre cousine, hein, moi je trouve. Vous dire, hein, elle a l'air très très bien, cette cousine.
Non, je pense qu'il y a, n'ayez pas de crainte. A priori, il y a pas, c'est pas un prémisse d'une future surdité. Hein. Vous aimez entendre le son à un niveau normal pour pouvoir l'entendre, la voix chuchotée, ouais. Vous savez, on appelle la voix chuchotée, la voix normale et la voix forte. Vous aimez bien écouter les gens à voix normale, c'est pas très grave. Hein. Et, a priori, il n'y a aucune raison que vous soyez sourde plus tard.
Oui, et conseillez à votre cousine de changer d'opérateur de téléphonie, peut-être aussi.
Non, c'est qu'elle veut parler doucement. Elle veut pas être entendue. Mais moi, je n'entends pas et ça me fait peur. Je me dis, parce que déjà, dans nos gènes, bon, je suis maghrébine, je suis du Maroc, on a tendance à parler fort. Notre seule expression à tous, on parle fort. On a du coffre et on parle fort. Et il suffit en plus qu'il y ait deux ou trois personnes et qu'il y en ait deux qui parlent, on va encore parler plus fort pour être entendu. Et je me dis, c'est peut-être à cause de ça que je n'arrive pas à écouter doucement.
Bon, par contre, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de savoir si il y a beaucoup de gens qui ont une altération de leur système auditif avec l'âge dans votre famille. Ça peut être intéressant de le savoir.
Non, ils entendent super bien. Ils arrivent à chuchoter, mais moi, j'ai du mal. Alors, j'ai peur. Je me dis, mon Dieu, quand dans quelques années, je vais être super sourde.
C'est pas grave. Comme ça, vous serez tranquille. Personne ne vous embêtera, Fouzia.
Oui, mais si j'entends pas chuchoter à côté, c'est grave quand même. Hein.
Soyez rassurés, Fouzia. On vous fait un gros bisou.
Merci beaucoup.
À bientôt. On salue les Marseillais. On prendra d'autres appels dans un instant au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h. Sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est donc jeudi, hein, les 19e journée nationale de l'audition. On en parle ce matin avec Philippe Mesguer, qui est secrétaire général de l'association GNA, qui organise ces journées. Vous avez un site, hein, si vous voulez plus d'informations, avec un numéro vert que vous pouvez appeler. Mes oreilles, j'y tiens. Mes oreilles, j'en prends soin. Mais c'est vrai que les oreilles, ça s'entretient. C'est comme le reste. Hein. Qui veut entendre longtemps ménage ses oreilles. Comment ça s'entretient, les oreilles? Est-ce qu'il faut mettre, vous savez, les petits spray maintenant. Alors aujourd'hui, il y a plein de choses.
Ouais, ça c'est pour ce qu'on appelle les bouchons de cérumen. Alors officiellement, le cérumen n'est pas une mauvaise chose pour l'oreille.
Je crois que ça protégeait. Moi.
Alors
c'est
ça
une
protège
barrière,
exactement.
Ouais.
C'est une barrière. C'est moi j'appelle ça le barane du cuir de l'oreille. C'est-à-dire que le tympan et la peau du conduit auditif, c'est un système qui a besoin d'être un petit peu graissé pour être protégé. Et donc le cérumen a une fonction à ce niveau-là.
Mmh. À quoi ça sert les poils dans les oreilles ?
Alors normalement ça sert à vous dire qu'il y a quelque chose éventuellement qui rentre dans l'oreille, et donc ça augmente la sensibilité.
Non, mais il y a des gens qui ont des cheveux dans les oreilles, je ne sais pas si vous avez vu.
Voilà, exactement, mais on connaît bien l'oreille malheureusement, et donc il y a des gens qui ont une forêt de cheveux dans le conduit auditif, ce qui est anormal, hein, bien sûr, comme il y a des gens qui ont une production de cérumen anormale et qui font des bouchons de cérumen.
Mais il y en a beaucoup, hein.
Alors, il y en a beaucoup, oui, c'est vrai.
Et en vieillissant, d'ailleurs.
Et en vieillissant, oui, exactement.
Ouais. Bon, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour qu'on entretienne nos oreilles et surtout qu'on les épargne ?
Alors, voilà, parce que l'hygiène au niveau du conduit auditif, bon, bah, ça, il est classique, hein, c'est-à-dire qu'éviter d'avoir des bouchons de cérumen. Logiquement, aller voir plutôt un ORL pour faire un lavage de l'oreille de temps en temps, mais c'est pas fréquent.
Les cotons-tiges, bon, pas bon ?
Alors, les cotons-tiges...
Parce qu'il y a deux écoles.
Il y a deux écoles, exactement. Il y a des médecins qui disent surtout, vous n'utilisez jamais de cotons-tiges parce que vous risquez de blesser le conduit auditif, de perforer le tympan, ou même de boucher l'oreille en poussant tout à l'intérieur. Je dirais que ça dépend un petit peu de la grandeur du conduit auditif. Si vous avez un conduit auditif qui est assez grand, vous ne risquez pas de tout pousser le cérumen à l'intérieur. Si vous avez un conduit auditif assez petit, utilisez éventuellement des cotons-tiges pour bébés qui ont... D'abord, qui sont beaucoup moins gros, et deuxièmement, qui ont une protection pour d'insertion. C'est-à-dire que vous limitez l'insertion à peu près à 1 cm, sachant que le conduit auditif est en moyenne 2 cm, vous ne risquez pas de traumatiser le tympan.
D'accord, mais sinon, on les nettoie comment ?
Alors, beaucoup de gens vous diront, on ne nettoie pas l'oreille. Je dirais que si jamais vous produisez très peu de cérumen, c'est vrai que vous ne nettoyez pas votre oreille. Mmh. Si vous produisez beaucoup de cérumen, de temps en temps, vous passez un petit coton-tige. En tenant le coton-tige à 1 cm de l'extrémité, comme ça, vous risquez pas de traumatiser le tympan. Et si vous voyez qu'il rentre pas dans l'oreille, à ce moment-là, vous prenez soit un coton-tige pour bébé, soit vous prenez rien du tout.
Bien. Quelles sont les astuces donc pour mieux gérer le bruit et pour limiter les expositions sonores répétitives ?
Alors, sachez que quand la voix humaine, par exemple, elle est à peu près à maximum 60, 65 décibels, 70 décibels quand vous parlez très très fort et que vous avez une voix qui porte bien. À partir du moment où vous, en échangeant une conversation avec quelqu'un, vous pouvez pas vous entendre parce que c'est impossible, ça veut dire que le son environnant est au moins à 80, 85 décibels, voire 90 décibels. Donc attention danger, à partir de ces niveaux-là, vous risquez, si vous restez trop longtemps dans une exposition sonore à 90 décibels, d'altérer votre système auditif.
Mmh. D'autres conseils pour reposer ses oreilles ?
Les temps de port pour reposer ses oreilles. C'est-à-dire que normalement, les temps de repos finalement pour l'oreille. C'est-à-dire que si vous êtes resté exposé pendant une heure et demie à des sons relativement forts et fatigants, prenez le temps de faire reposer votre oreille dans des ambiances plutôt calmes, inférieures à 50 décibels. Normalement, il faudrait au moins autant de temps de repos que de temps d'exposition à une source sonore trop forte.
Mmh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dormir avec la télévision et la radio, est-ce que c'est mauvais pour ses oreilles ?
Alors, dormir avec un casque sur ses oreilles, c'est très mauvais, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement retrouvés sourds en se réveillant alors qu'ils avaient mis la musique à fond sur un casque et qu'ils s'étaient endormis. Mmh. Dormir avec un petit peu de bruit autour de vous à partir du moment où le bruit n'est pas trop important, c'est pas dangereux pour l'oreille, mais quand même c'est peu conseillé.
Alors, il existe des protections auditives, hein, contre le bruit. Alors, au travail, qu'est-ce que vous conseillez ?
Alors, au travail, si vous devez pouvoir échanger avec vos collègues, il faut mieux choisir, si jamais le bruit est vraiment perturbant et qui ne nécessite pas, bien sûr, le port d'un casque obligatoire. Vous savez que maintenant, dans des ambiances très bruyantes, le port de casque est obligatoire.
Est obligatoire, ouais.
Donc, il y a un petit rond rouge avec quelqu'un avec un casque sur la tête. Maintenant, si vous êtes simplement gêné parce que vous travaillez en open space, par exemple, et que le bruit vous empêche de vous concentrer, mais que vous voulez quand même de temps en temps échanger avec vos collègues, vous pouvez, aujourd'hui il existe des bouchons d'oreilles qui sont atténuateurs de bruit, c'est-à-dire que vous pouvez baisser par exemple de 15 décibels l'environnement sans altérer la courbe en fréquence, et donc vous changez absolument pas la qualité auditive, simplement vous la baissez de 15 dB.
Bien, Fouad est avec nous au 01 53 48 3000, bienvenue Fouad.
Oui, bonjour Monsieur Philippe, bonjour à votre invité.
Monsieur Philippe également, donc voilà, comme ça, si vous dites Philippe, vous vous trompez pas, Fouad, aujourd'hui.
D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, ben, je voulais poser une question à votre invité, Monsieur Philippe.
Oui.
En fait, moi, j'ai du mal avec mon oreille gauche. Par exemple, quand je suis au lit et j'écoute, par exemple, la télé, quand je mets sur le côté droite, j'entends mal, mais quand je me tourne, par exemple, sur le côté gauche, j'entends bien avec la droite, mais j'ai du mal à entendre avec la gauche.
La gauche.
Mm-hmm. Voilà. Et une deuxième question aussi, quand, par exemple, je finis ma journée de travail et je rentre pour me décompresser, j'ai comme genre de bruit dans ma tête, quoi. Et j'entends le temps, il me faut au moins une demi-heure, quoi, pour que ça stagne dans ma tête, quoi. Voilà.
Alors,
écoutez, si déjà vous, en bouchant une oreille, vous entendez plus, ça veut dire que vous avez une oreille qui a un problème. Donc, je dirais qu'il faudrait que vous consultiez quand même assez rapidement un médecin ORL, puisque c'est pas normal que vous entendiez d'un côté pas de l'autre. Normalement, la perception auditive est équivalente à droite et à gauche.
Complètement, excusez-moi, mais juste moins.
Moins, mais même moins, ouais. Ça veut dire que vous avez une référence sur une oreille. Alors, ça veut pas dire que votre oreille où vous croyez entendre bien, vous entendez bien, hein, c'est pas ça que je veux dire. Malheureusement, même sur l'oreille où vous pensez entendre bien, vous avez peut-être une altération de votre audition, mais vous en avez encore plus de l'autre côté.
Tout à fait, oui.
Hein? Donc c'est
une indication, qui veut dire
qu'il faut
peut-être aller voir.
Voilà.
Ouais.
Par rapport à votre oreille référence,
investiguer.
Vous avez l'autre qui est pas bonne, c'est pas normal.
Vous faites quoi dans la vie, Fouad?
Ben, je suis chauffeur-livreur. Voilà.
Ouais, c'est un métier très exposé au bruit, ça, Philippe Metzger?
Pas spécialement. À partir du moment où vous transportez pas des caisses en métal qui résonnent beaucoup quand vous les déplacez?
Non, pas du tout. Je transporte pas ça, mais j'ai certains. C'est surtout comme j'expliquais, il y a un genre de bruit, quoi, comme ça, ça souffle, quoi, un petit peu dans ma tête, quoi.
Ouais, c'est ce qu'on appelle un acouphène, hein, c'est-à-dire c'est un bruit qui est un bruit parasite de votre oreille dans le silence, que vous entendez particulièrement dans le silence. Ouais. Et vous récupérez, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, vous commencez à le gérer un peu mieux et à l'oublier.
Oui, à un moment, oui. Oui, ouais. Enfin, il me suffit, moi, on va dire à trois quarts d'heure, quoi, et ça commence ma tête à se calmer un petit peu, quoi. Donc, j'entends pas. J'entends moins, ou sinon, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ça part, quoi, petit à petit.
Ouais. Ouais. De toute manière, je vous conseille quand même de consulter un médecin ORL qui vous en dira un petit peu plus.
Moi, généralement, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un médecin ORL, il a regardé mon oreille, il m'a dit ça va, t'as pas d'otite, t'as rien du tout, mais j'ai beaucoup de problèmes quand j'étais petit avec l'oreille, quoi. Et souvent, il y avait des otites qui étaient très, 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 très dur, et même ça saignait carrément avec.
C'est peut-être pour ça que vous avez peut-être gardé des séquelles du côté où vous avez fait beaucoup d'otites, c'est pour ça que vous entendez moins bien d'un côté que de l'autre.
Hein. Tout à fait, ça doit être ça, oui. Il y a par exemple une solution pour ça, monsieur, ou...
Alors, a priori, si vous n'avez pas de perforation tympanique, bon, ça va. Si vous avez une perforation tympanique, il ne faut pas mettre de l'eau dans l'oreille. Mais sinon...
Oui, en fait, pour vous m'avez fait rappeler de l'eau. En fait, quand je, par exemple, je vais à la piscine ou je suis à la plage et tout, dès que je rentre ma tête sous l'eau... Tendance à l'eau qui rentre, on dirait, dans mon oreille carrément.
Ouais, donc normalement, le médecin ORL vous a prévenu, je pense. Hein, il vous a dit si vous aviez une perforation ou pas.
Non, sincèrement, il m'a rien dit.
Il vous a rien dit.
Il faudra peut-être
le reconsulter pour lui demander s'il y a une perforation.
D'accord. Bon, bah, écoutez, monsieur, je vous remercie. Hein,
bah, c'était, ça faisait plaisir de parler avec vous, Fouad.
Merci beaucoup, monsieur Philippe. Mais moi, ça m'a fait plaisir de vous parler. J'écoute souvent à la radio.
Bon.
Dans la femme.
Bah, vous êtes le bienvenu, alors.
Merci, monsieur Philippe, et je vous souhaite une bonne journée à vous et à votre invité.
À bientôt, Fouad. C'est vrai que les cas d'otite, est-ce que finalement les gens qui font des otites à répétition ont plus de prédisposition à la surdité que les autres après ou pas?
Non, c'est-à-dire que normalement les otites, c'est plutôt, on les fait plutôt quand on est jeune, hein, quand on a entre 8 ans et 12 ans. Ça, a priori, ça va pas aggraver éventuellement votre perte auditive future. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, vous pouvez avoir des séquelles d'otite dans les otites. Assez grave ou assez permanente, où vous risquez, c'est vrai, à ce moment-là, d'avoir une baisse d'acuité auditive définitive.
Les bouchons dont vous nous parliez tout à l'heure à porter au travail, ça ressemble à des boules qui est-ce ou ça n'a rien à voir?
Alors, ça peut... Il y a deux types de bouchons que vous pouvez acheter, hein, c'est-à-dire que il y a des embouts, enfin des bouchons qui ne sont pas sur mesure, et donc qui sont relativement pas onéreux, hein, ça va de 1 euro à 17 euros la paire, hein, donc ça il y en a un petit peu à tous les prix. Et puis, il y a ceux qui sont plus confortables et plus efficaces, mais qui, à ce moment-là, demandent une prise d'empreinte de l'oreille.
Jamila est avec nous. C'est le Nord, hein, Jamila. Vous nous appelez de Valenciennes. Bienvenue, Jamila.
Bonjour, Philippe.
Bonjour, Jamila.
Bonjour, docteur.
Monsieur Philippe Mesguer, qui vous écoute. Jamila, pour votre question.
C'est pour mon fils, parce qu'il gratte tout le temps les oreilles, docteur.
Il se gratte les oreilles. Il a quel âge, votre fils, Jamila?
20 ans.
D'accord. Il se gratte les oreilles. Quand vous dites il se gratte les oreilles, c'est-à-dire
Parce qu'il est parti chez le docteur, il a fait l'examen et tout, il a dit t'as rien, et il gratte toujours avec le coton.
Mais il a une espèce de démangeaison, c'est ça, hein, dans le conduit auditif.
Oui.
Ouais. C'est assez fréquent. Donc normalement, il faut retourner voir quand même le médecin, soit votre médecin généraliste. Je pense qu'il pourrait vous prescrire ce qu'il faut. Sinon, un médecin ORL. Il peut y avoir deux types d'eczéma. Il y a les eczémas qui sont assez légers et donc qui demandent simplement à avoir un petit peu d'huile d'amande douce ou des choses comme ça. Et puis des fois, c'est les inflammations qui sont un petit peu plus importantes. Et puis donc, s'il faut être mis sous ce qu'on appelle dermatocorticoïde, c'est-à-dire c'est une pommade que vous pouvez mettre dans le conduit auditif et qui va endormir un petit peu le système inflammatoire et aller vers ce qu'on appelle un cercle vertueux, c'est-à-dire une reformation du système cutané qui va faire une barrière.
En tout cas, Jamila, si ça continue à gratter, il faut qu'il retourne.
D'accord, merci beaucoup, Philippe.
Gros bisous, Jamila, à bientôt. Alors, je vous rappelle que jeudi, ce sont les journées nationales de l'audition. Beaucoup de mamans nous écoutent. Comment est-ce qu'on contrôle quand même le bon niveau sonore de ces enfants? Qu'est-ce qu'on leur donne comme message de prévention, même s'ils n'ont pas toujours envie d'écouter, qu'ils veulent écouter la musique fort dans les casques? Mais qu'est-ce qu'on leur dit?
Alors, on leur dit déjà de ne pas la mettre trop forte, c'est évident. C'est-à-dire de mettre un niveau sonore qui soit audible, mais s'arrêter à ce niveau-là. C'est-à-dire partir du bas pour monter vers une intensité plus forte, plutôt que de mettre systématiquement à fond les Walkman dans les oreilles ou la musique dans la chambre. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut leur essayer d'expliquer aux enfants. La deuxième, c'est d'éviter de porter trop longtemps leur casque sur les oreilles, c'est-à-dire limiter à 2-3 heures le son. De plus en plus maintenant, dans les systèmes, dans les baladeurs, il est intégré une espèce de, quand vous augmentez le volume, il y a une espèce de zone rouge qui arrive. Ça veut dire que vous êtes à plus de 80 décibels dans le casque et donc vous atteignez une zone potentiellement dangereuse. Le problème, il est aussi que souvent les jeunes changent le casque d'origine du Walkman ou du baladeur, et à ce moment-là, la calibration qui a été faite au départ est plus du tout valable.
Oui, c'est important, mais faut vraiment surveiller, parce qu'encore une fois, plus on écoute fort jeune, et ben plus on aura des problèmes plus tard.
Exactement.
Même si on n'a pas l'impression qu'un jour on sera dur de la feuille, mais c'est invalidant, hein, mine de rien, ne plus entendre, c'est quand même être coupé de la société.
Complètement, vous savez, il y a au moins 40% des informations qui passent par les oreilles, et donc perdre ce sens, c'est perdre une grande partie de ce qui fait la qualité de la vie et la qualité du mieux vivre.
Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de recherches, est-ce que la surdité, c'est réversible? Est-ce qu'on peut vous greffer des petits trucs?
Alors,
ça reste de la science-fiction?
c'est pas de la science-fiction, mais pour l'instant c'est pas encore du tout d'actualité. Mais c'est vrai qu'il y a deux sources de recherche. Il y a ce qu'on appelle la thérapie génique, c'est-à-dire que finalement on sait que il y a des gens qui sont plus ou moins protégés au niveau de leurs oreilles par leur génome, et donc on arrivera à faire ça. Et puis la thérapie cellulaire, c'est-à-dire redonner des cellules sensorielles.
Philippe Metzger, notre invité aujourd'hui, à l'occasion des 19e journées nationales de l'audition en France. Et demain, c'est le retour de Nadia. Très belle journée sur Beurre FM.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.